La revue de presse avec vous, Karine Bécard.
Et vous nous parlez, Karine, pour commencer d'un nouveau phénomène qui reste plutôt minoritaire.
Oui, c'est moins que l'on puisse dire. Je voudrais vous parler des hommes de ménage. Parce qu'il y en a, figurez-vous. Et ils aiment ça. C'est le cas, par exemple, de Julien, première carrière dans le BTP, où il a eu le sentiment de végéter. Au bout de 20 ans, il a décidé de bouger, de tout changer, de se lancer, homme de ménage, donc, avec un quart de salaire supplémentaire. C'est le Parisien aujourd'hui en France, ce matin, qui nous raconte, comment dire, cette belle histoire, même si ce n'est pas toujours simple. Vous verrez, c'est amusant. Les femmes, par exemple, elles ont du mal à confier la propreté de leur maison à un homme. Julien doit donc commencer, maintenant il le sait, par les apprivoiser, de même que les maris n'aiment pas trop voir débarquer un autre homme dans leur intimité. Et puis, autre difficulté, avouer à sa famille, à ses amis, qu'on a fait le choix de cette vie-là, de cette profession-là. Julien, lui, a eu besoin de 6 mois pour réussir à annoncer officiellement qu'il avait changé de métier. Bref, c'est un coup de projecteur, pas déplaisant, en ce samedi matin, même s'ils ne sont pour l'instant ces hommes de ménage en France que 5% seulement, comme le rappelle méthodiquement Le Parisien ce matin. Sinon, plus classiquement, c'est la mobilisation des étudiants en faveur du peuple palestinien qui occupe aujourd'hui encore une large place dans la presse. C'est le cas dans le Figaro notamment, qui s'inquiète en première page de tous ces rassemblements qui se multiplient dans les universités en France, dans les grandes écoles et bientôt dans les lycées, a priori à partir de la semaine prochaine. Le journal Libération, lui, préfère nous ramener là où tout a commencé, aux États-Unis, avec des mobilisations de plus en plus violemment réprimées par la police américaine, une répression et une photo ce matin marquante dans le quotidien Ouest-France. Vous y verrez une rangée de policiers solidement armés et postés face à une rangée d'étudiants. 1 mètre les sépare, 1 mètre seulement. Ambiance tendue, effectivement, sur l'un des campus de Los Angeles.
Des moments d'extrême tension, ils en ont connu, elles en ont connu, deux femmes politiques qui s'affichent dans nos journaux ce week-end également.
Et l'une comme l'autre n'ont visiblement rien oublié de ce qu'elles ont vécu. À ma gauche, pour commencer, Elisabeth Borne, c'est Libération ce matin, qui observe celle qui est redevenue une simple députée du Calvados. Et le journal constate qu'elle se montre sacrément active dans la campagne des européenne, sacrément présente sur le terrain, dans le Finistère, dans la Sarthe, dans le Rhône ou encore dans le Bas-Rhin, et sacrément incontournable à chaque réunion des instances du parti du président. Du coup, certains s'interrogent dans le camp des macronistes, à quoi joue Elisabeth Borne ? Elle serait en train de se mettre les militants et les parlementaires de la majorité dans la poche, ajouter à cela un livre qui doit sortir à la fin de l'été, c'est ce que rappelle Libé. Libé qui raconte donc qu'il n'en fallait évidemment pas plus pour faire réagir les principaux cadres de la Macronie qui la voient déjà intéressée et prête à postuler pour s'emparer de Renaissance le mouvement présidentiel. Et maintenant, à ma droite, se cache Anémone Giscard d'Estaing, que vous débusquerez ou pas. Dans les pages du Figaro Magazine de ce week-end, une grande discrète de 91 ans qui a accepté de s'exprimer exceptionnellement à l'approche du 50e anniversaire de l'élection de VGE à l'Élysée. C'est une délicieuse page d'histoire, certes un peu surannée, mais je redécouvre que c'est elle la première à avoir réclamé un bureau rue du Faubourg Saint-Honoré, ce qui apparemment à l'époque a suscité pas mal de troubles, voire de consternation. Il a donc fallu lui trouver une pièce pour l'installer, une pièce qui est aujourd'hui toujours occupée par les premières dames qui se sont succédées. Comme quoi, on peut être discrète tout en ayant un certain caractère.
Et enfin, lui aussi a préféré s'effacer pendant plusieurs mois.
Oui, et il revient dans l'équipe ce matin avec cette interview confession, pas inintéressante, de l'ancien entraîneur du PSG, donc Christophe Galtier. Relaxé en décembre dernier, dans cette affaire de harcèlement moral et de discrimination, c'est la première fois qu'il reprend la parole et il raconte, entre autres, ce que c'est que d'entraîner des footballeurs hors normes, Messi, Neymar, Mbappé, excusez du peu. Un sourire déplacé, explique-t-il, un simple clin d'œil peuvent prendre des proportions inimaginables, pour ne pas dire tout simplement mondiales. Et justement, ces stars du football, savez-vous qu'elles sont aujourd'hui pour l'essentiel d'origine francilienne ? L'Île-de-France serait devenue apparemment le plus gros vivier de footballeurs de la planète. Ce n'est évidemment pas moi qui le dis, mais le magazine mensuel SoFoot qui vient de sortir et qui signe un dossier passionnant. Que vous soyez amateur de ballon rond ou pas, vous y apprendrez qu'elle est bel et bien finie, l'époque où les meilleurs joueurs venaient forcément du Brésil, d'Afrique ou d'Argentine. Aujourd'hui, c'est Paris et sa banlieue qui sont devenus le premier producteur mondial de football, ce qui suscite forcément les convoitises d'improbables recruteurs parfaitement amateurs qui rêvent, vous l'aurez compris, de dénicher sportivement et financièrement surtout la perle rare.
C'est vous la perle rare, Karine Becker. Merci pour cette revue de presse. À demain.